بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. Je vais peut-être faire une bêtise, mais je vais pas respecter le programme. J'ai envie de finir. Ah, c'était prévu que je fasse un autre sujet. Depuis tout à l'heure, j'épie désespérément vers là-bas afin de voir un responsable. Je n'ai pas réussi à en avoir un. Donc, je me lance. Je vais faire comme vous avez dit. Je fais ce qu'il veut, alors je fais comme vous avez dit. Donc, j'ai envie de finir. Comme on dit, il faut battre le fer quand il est encore chaud. Ou bien pendant qu'il est encore chaud. Inch'Allah, le daf qui était prévu ce soir, on fera demain. Donc, on est toujours dans l'apprentissage du Coran. Muhim hada, muhim jidda. C'est très important, mes frères. On apprend, ça ne veut pas dire négliger deux choses. Ne pas négliger la lecture quotidienne et ne pas négliger la révision. Ne pas négliger la lecture quotidienne et ne pas négliger la révision. Et là, je répète, je m'adresse à des toulab ilm, des gens qui ont la himma, l'enthousiasme et la motivation d'atteindre les... Comment dire, les... Hein? Non, je veux dire un mot beau, mais Michel, les gars. Les straps, pas les... Hein? Les hautes sphères. Aïna. Donc, mes frères, vous remarquez que nos pères, quand je dis nos pères, je parle des kibarsines, les gens qui sont âgés. Ces gens qui ont grandi une longue partie de leur vie donc dans leur pays d'origine et qui se sont installés donc en France et qui y vivent pour la plupart d'entre eux toujours. On remarque غالباً والحديث هنا على سبيل الغالب. Là on parle en général qu'ils finissent le Coran une fois par mois. En lecture, on remarque qu'ils finissent le Coran en moyenne une fois par mois. الذي يلتزم عليه السلام الذي يلتزم بقراءة جزء واحد يوميا يصل إلى تمام الشهر وهو يختم تلاوة القرآن. Celui qui s'impose la lecture d'un juz, un juz c'est deux hizb, quotidiennement, tous les jours, à la fin du mois, il a fini le Coran en lecture. وكم تستغرق تلاوة جزء من حيث الوقت. Combien de temps la lecture d'un juz, يعني deux hizb, prend-elle? Au maximum en lisant lentement une demi-heure. Au maximum en lisant lentement une demi-heure. أليس لديك يا عبد الله نصف ساعة يوميا تنفقها في سبيل الله وأنت تتلو كلام الله. N'as-tu pas, ô mon frère, au minimum dans la journée une demi-heure à dépenser pour Allah tabaraka wa ta'ala de lire le Coran? Wallahi, ce qui est désolant et affligeant quand le mois du Ramadan arrive et que tu vas voir les frères de la Sunna walhamdulillah pour te motiver en sachant combien de fois ils ont déjà fini le Coran alors qu'il ne reste plus qu'un tiers du mois, يعني 10 jours. Les frères, vous avez fini combien? Vous en avez tout? Alors là, il me dit, Ali Imran, tu dis de la combien de fois? Il me dit, ben, de la première. Ajib. C'est Ramadan. Il y a le deux tiers du mois qui sont passés. Il en est qu'à Ali Imran. C'est Ramadan. Mais qu'est-ce qu'il lit, lui, dans l'année? Rib. Qu'un mois, il passe et que tu n'as pas lu le Coran. Pas entièrement. Mais au moins que tu as lu le Coran. Vous vous rendez compte s'il y en a parmi nous qui n'ouvrent pas le mashaf pendant un mois et qui après disent nous on suit la sunna? Vous vous rendez compte de ça? Si on avait une porte par laquelle on pourrait remonter le temps et arriver chez les salafs, attrape n'importe lequel d'entre eux, Yahya ibn Ma'in, Ali al-Madini, أيوب السختياني ربيع بن خثيم غيرهم. يجي شيخ تعال تعال هناك واحد ينتسب إليكم ولا يقرأ القرآن ولو مرة في شهر واحد. ها هنا أي prétend vous suivre يعني les سلف et il ne lit pas le Coran pendant un mois, il touche pas le mashaf. عجيب هذا عجيب هذا. C'est étonnant quand même. On doit avoir un wird yaoumi. Un wird yaoumi, yani une quantité journalière de Coran à lire. Ça, c'est de la lecture. La lecture, elle ne te prend pas de faculté, d'effort. Ça ne te fatigue pas de lire. Combien d'entre nous, quand ils prennent les transports en commun le matin, pour aller au travail, ils lisent 20 minutes, là, le truc qui distribue gratuitement, là. Combien? Combien d'entre nous, il est capable de lire l'équipe deux fois de suite? Ah, j'ai pas bien appris les transferts de l'équipe du Real Madrid, là. Hein? Combien d'entre nous, ils passent des heures devant Internet, devant les forums, YouTube et autres bêtises? Des heures à écrire. LOL. Combien de temps on perd à faire n'importe quoi? Hein? T'as pas le temps d'ouvrir le mashaf et lire un juz 20 pages. N'a-t-il le waqt? T'as pas le temps? Lazim nafsak, force-toi à lire le Coran tous les jours. Essaye de le finir en lecture entièrement en un mois. Le tariqa est simple. Il y a 5 prières dans la journée. Tu lis 2 pages avant chaque prière et 2 pages après chaque prière, et bien à la fin de la journée tu auras lu 2 hizb. Compte. Dans 2 hizb, il y a 20 pages. Il y a 5 prières. 2 fois 5 plus 2 fois 5, ça fait 20. Comment ça te prend de lire 2 pages avant la prière? Comment ça te prend de lire 2 pages après la prière? Pourquoi, au lieu de foncer vers la porte après que la prière elle soit finie, tu restes pas à ta place, tu prends un mashaf et tu lis 2 pages? Alash. Si t'as pas le temps de lire 2 pages avant la prière, ma'alash, iqra arba' safahat ba'da as-salah. Kadhalik, la yastaghriqu waqtan tawila. Si tu n'as pas le temps de lire 2 pages avant la prière, taïb, ben lis 4 pages après la prière, après chaque prière. Tu as le temps, mais fiche mouchké. Et si on t'appelle dehors, tu dis, attends, j'arrive, je finis ma page, j'arrive. Habitue-toi à faire cela, et tu en récolteras les fruits. L'ahsan, 2 pages avant, 2 pages après. C'est encore plus sahel, plus khafif, plus léger et plus simple. Et après, il y a la mouraja'a, la révision de ce que tu as appris. Wa mimma قرأناه من كتب أهل العلم أنفع الطرق لمراجعة القرآن أن تقرأ ما حفظته في قيام الليل. Et de ce qu'on a lu comme conseil des savants, l'une des meilleures façons de réviser le Coran que tu as appris, c'est de lire ce que tu as appris dans قيام الليل, dans la prière de la nuit. Dans la prière de la nuit lorsque les gens y dorment. Comme ça, tu te forceras aussi à te lever et à faire ne serait-ce que rak'atayn la nuit. Et pour tous ceux qui sont d'accord avec les savants qui disent qu'il n'est pas permis de faire plus de 11 rak'at dans la prière de la nuit, eh bien faites-le les 11 rak'at avec le Coran que vous avez appris. Révisez-le. Et si vraiment vous craignez la faiblesse de votre mémoire, il n'y a pas de mal à prendre le mashaf et de le lire dans la prière. هذا ينفعك. Ça c'est utile et ça aide. Et ne dites pas dans vos têtes que je n'arrive pas à réviser et à apprendre en même temps. Là, c'est parce que tu ne sais pas gérer ton temps, tu ne sais pas gérer ton apprentissage et ta révision. Wallahi, mes frères, si on comptait le nombre de mots qu'on dit tous les jours, est-ce que tu as déjà pensé à compter combien de fois tu parles dans la journée? Quand je dis tu parles, en termes de mots, combien de mots tu dis dans la journée? Eh bien, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a fait plus que ça. Il a compté combien de fois il respire dans 24 heures. Wallahi, j'ai déjà trouvé ça dans un livre d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, où il te dit, je ne sais plus comment c'était, mais qu'on respirait tel nombre de fois dans la journée. Imagine-toi. Toute la journée comme ça. Agib. Ben, combien de mots tu dis dans la journée, toi? Quand tu auras fait le compte, eh ben, enlève les mots qui servaient à rien. Eh ben, dis donc, tu vas en enlever des mots. Il va plus t'en rester beaucoup. Encore plus chez les femmes. Hadith wa la haraj. J'avais lu une étude scientifique, je ne m'en souviens plus, comme quoi un homme et une femme parlaient presque deux fois plus qu'un homme sur la, en, dans une journée en termes de nombre. De nombre de mots, Yann. Combien de mots comme ça, ils ont été prononcés pour rien, qui servaient à rien. Comme il disait Ali radiallahu anhu, « قُلْ بِخَيْرٍ تَجْتَنِيهِ أَوْ تَحَلَّى بِالسُّكُوتِ » قُلْ بِخَيْرٍ, dis du bien, تَجْتَنِيهِ, tu le récolteras. أَوْ تَحَلَّى بِالسُّكُوتِ, ou orne-toi du silence. Al-Asma'i disait, rahimahullah, « إِنْ كَانَ الْكَلَامُ مِنْ فِضَّةِ فَالسُّكُوتُ مِنْ ذَهَبْ » Si la parole est d'argent, ben le silence il est d'or. والنبي قبلهما عليه الصلاة والسلام يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. وفي حديث آخر صححه الألباني رحمه الله من صمت نجا. من صمت نجا. Celui qui se tait, il s'est sauvé. Il s'est sauvé. Et qui est meilleur encore que celui-là? C'est celui qui, quand il parle, il dit des choses utiles qui lui sont profitables. Et qu'est-ce qui est plus profitable que le Coran? Et pareil, regardez le nombre d'heures, j'allais dire de minutes, là, d'heures, qui passent dans la journée à des choses qui servent à rien. Combien? De longues minutes, de longues heures. Et là, après tout ce qu'on a dit dans le Coran, vous avez plus ou moins maintenant une idée, des moyens qui vous aideront, qui vous permettront d'apprendre le Coran. Et sachez qu'une des choses qui sont les plus bénéfiques, comme j'y ai fait référence précédemment, vite, c'est la concurrence. Prenez-vous des frères avec qui vous êtes proches et apprenez le Coran ensemble. Et concurrencez-vous. C'est là-dedans qu'il faut concurrencer, mes frères. Comment ça se fait, Agib, des fois tu vois que c'est ça? J'espère que tu connais comment le Hizb. Il est 3. Ah, mon petit frère, il TikTok, on connaît 6. Sarto. Genre, ça lui fait ni chaud ni froid. Agib, genre, presque, tu aurais dit je m'en fiche, ça aurait été la même chose. On a Agib, subhanallah. Vous vous rappelez du hadith de Omar, radiallahu anhu, toujours il essayait de devancer Abu Bakr. Quel jour il a su que c'était impossible? Quand Rasoul il a dit, alayhi salam, mon compagnon, ramenez de votre argent de quoi avec on va pouvoir aider l'islam et les musulmans. Omar a dit, ce jour-là, je vais battre Abu Bakr. Il a pris tout ce qu'il possédait et l'a séparé en deux. Il a gardé une moitié pour sa famille et lui, et il a ramené l'autre moitié pour obéir à l'ordre du prophète, alayhi salam. C'est dit, ce jour-là, Abu Bakr ne battra pas. Et Abu Bakr, il va arriver avec quoi? Tout ce qu'il possède. Et le Rasoul lui dit, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce que tu as laissé à ta famille? Il a dit, Allah wa Rasoul. Allah est son messager. Et là, Omar l'a su, je ne battrai jamais Abu Bakr. Mais je vous rassure. Enfin, je ne vous rassure pas. Abu Bakr et Omar sont morts, radiallahu anhum. Comment se rassurer de leur mort? C'est impossible. Radiallahu anhum. Lakin, des comme eux, il n'y en a plus. Ne vous inquiétez pas. Vous pourrez y arriver. Trouvez des gens qui sont motivés comme vous et apprenez ensemble. Et arrêtez les fausses modesties, les fausses craintes de l'ostentation. Ah non, moi je ne dis pas, ah oui, moi j'ai peur de mania. Arrête ton blabla là. Arrêtez de vous faire avoir par ces fausses craintes, ces fausses peurs. J'ai des waswas, j'ai peur mania, tout ça. Et arrêtez qui te connaît, qui va faire attention à toi. Arrêtez. On dirait que tu es dans le minbar au haram à Mecca. T'es pas dans, t'es à Tourcoing dans ce département ici. 28, non c'est ça? 59. C'est dans 59, je ne veux pas c'est quoi ce département. Tu dis qu'il faut faire attention à toi. Vous ne faites pas avoir avec ces fausses, ces vieilles tentatives sataniques dans lesquelles on tombe tous malheureusement. Maintenant, moi, je n'apprends pas mania et tout ça, je ne dis à personne. C'est comme une sœur, elle a dit à une autre, ah, moi, je suis en train d'apprendre une sourate. Ah bon, laquelle? Ah non, je ne dis pas mania. Ben, pourquoi tu me dis d'apprendre une sourate? Je ne le dis pas du tout, et puis c'est bon. Je m'en fiche, je m'en fiche d'apprendre une sourate. Non. Alors, attends, je suis en train de prendre une soif, mais je ne dis pas laquelle, pour manier. N'importe quoi, n'importe quoi. On se fixe un groupe de 5 personnes, par exemple, et on se voit tous les dimanches, après l'Asr, par exemple, et chaque dimanche, on se journe nous. T'en es où, Akhi ? J'ai appris Zariyat. Et toi ? J'en suis Al-Qamar. Et toi ? Je suis Aqaf. Ah, oh, tu nous as dépassé. Ah, rendez-vous dimanche prochain. Et c'est reparti. Tanafus. La concurrence, c'est là-dedans qu'il faut se concurrencer. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُ. Hein ? Combien de fois on a fait des efforts immenses pour réussir à mettre une tête dans un match de foot ? Combien de fois on a fait des efforts immenses pour dépasser l'autre sur, à la ligne d'arrivée ? Combien de fois ? Hein ? C'est quoi le meilleur, c'est quoi le plus important ? Qu'est-ce que dit le Coran, mes frères ? N'oublions pas que nous parlons des recommandations pour l'étudiant en sciences. Dit tafsir. Qu'est-ce que dit le Coran ? Dit tafsir. Le tafsir, l'exégèse, l'interprétation du Coran, doit être devancée par ce qu'on appelle au sol al-tafsir. Sachez, mes frères, pour ne pas que j'aie à le répéter, que chaque science à son mustalah, à sa terminologie. Lorsque vous lisez dans les livres de tafsir, vous trouverez des termes propres à la science du tafsir. Ces termes, pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent dire, doivent être étudiés dans cette matière qu'on appelle usul fi tafsir. D'ailleurs, ce qu'on appelle al-usul, c'est en gros les lexiques de chaque science. C'est en gros les lexiques de chaque science, c'est-à-dire ça regroupe tous les termes qui sont employés dans ces sciences et qui ont un sens particulier propre à cette science. Et dans le tafsir, on retrouve des termes tels que cela. Al-Nasikh, Al-Mansour, Al-Muhkam, Al-Mutashabih, Al-Makki, Al-Madani, et ainsi de suite. Quand tu vas lire dans Ibn Kathir, il ne va pas te faire une astérisque en bas de la page. Nasikh, en bas, ah, ça veut dire ça. Non. Il faut que tu saches au préalable qu'est-ce que ça veut dire. Il y a des livres qui ont été écrits à ce sujet, comme la Muqaddima d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ou bien, plus facilement, celle de Sheikh Al-Uthaymin, qu'il a lui-même expliqué. Et, d'une pierre deux coups, il a expliqué celle d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah. D'ailleurs, je vous conseille, dans ce genre de matière qu'on appelle Al-Usul, les livres de Sheikh Al-Uthaymin, rahmatullahi alayh, qui sont magnifiques dans la façon d'expliquer et de rendre simple ce qui est difficile et de rendre abordable ce qui est lointain. Quand tu lis les kutub de Sheikh Al-Uthaymin, tu as l'impression que le ilm il est à portée. Avant de les lire, tu as l'impression que c'est à des années-lumière de toi. Et Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, on a pris une ibara de lui qui disait « Man hurima al-usul, hurima al-wusul. » Man hurima al-usul, celui qui est privé des bases, hurima al-wusul, il est privé de l'arrivée. Comment est-ce que tu veux arriver à la fin de Talab al-ilm, même si on a dit qu'il n'y avait pas de fin dans Talab al-ilm, si tu n'es pas passé par le début? Et ça, c'est une erreur, malheureusement, que beaucoup d'entre nous commettons. De ne pas apprendre ce qu'on appelle al-usul. Et dans les grands domaines de la science, on a usul fi tafsir, on a usul al-fiqh, et on a le mustalah pour le hadith. C'est science qui te définit tous les termes qui sont employés et propres à chacun de ces domaines. Donc avant de passer au livre de tafsir, il est bon de s'instruire dans ce domaine qu'on appelle usul al-tafsir. Et donc les livres que je vous ai donnés comme exemple sont suffisants, inshallah, pour se retrouver dans les livres de tafsir. Ensuite, on a les livres de tafsir. On a beaucoup d'exemples. Comme tafsir al-Jalalayn. On l'appelle al-Jalalayn car c'est deux auteurs qui s'appellent tous les deux Jalal ad-Din. Et parmi les deux, on a Suyuti. Rahmatullahi alayhi. Ce tafsir est assez court et comporte des erreurs liées à l'aqid, notamment dans ta'wil al-asma wa sifat, notamment dans l'interprétation des noms et attributs. C'est d'ailleurs pour cela que les savants divergent sur ce livre. Est-ce qu'il est à conseiller ou non? Certains disent non catégoriquement. Si je me souviens bien, c'était Cheikh Albani qui disait ça, rahmatullah. D'autres le conseillent à des étudiants avancés qui sont capables de déceler ce genre d'erreur, comme Cheikh Al-Uthaymin. Donc, c'est un livre à tafsir qu'on trouve en général dans les marges des pages du Coran. Et c'est un tafsir en général qui explique les mots compliqués du Coran. On a, après cela, le tafsir de Cheikh Sa'di, rahmatullahi alayhi, qui est considéré comme un des meilleurs tafsirs contemporains dans sa facilité d'expression et sa clarification des sens du Coran. Il n'est pas très long et le livre ne demande pas un effort particulier, mais apporte de nombreuses connaissances et de nombreuses morales. Et bien entendu, est conseillé par nos grands savants. Après, bien entendu, on a le tafsir le plus célèbre, celui d'Ibn Kathir, rahimahullah, qui est plus ou moins un condensé de celui d'Ibn Jarir, al-Tabari, qui était appelé imam al-Mufassiri. Ibn Jarir, on en a parlé tout à l'heure, on a dit qu'il a fait un tafsir dans lequel il a réuni tout ce qu'il a trouvé. Mais Ibn Jarir, son tafsir, rahmatullah alayhi, il est plus pour les tulab al-ilm al-mutamakkinin, car il a, comme on l'a dit, fait l'effort de regroupement, il a rassemblé tout ce qu'il a trouvé sans faire référence au sahih min al-za'if. Il n'y a pas de référence dans les rapports, les degrés d'authenticité des textes s'y trouvant. On a dernièrement des versions muhaqqaqa qui ont été revues par certains savants, notamment je crois qu'il y en a une fois qui a été faite par Cheikh Abdullah Turki, si je ne me trompe pas, Al-Muhim, qui ont fait ce travail d'épuration. Mais ça reste quand même un tafsir brut. On a au départ la parole de Ibn Jarir al-Tabari qui explique le verset, et après on a les paroles des sahaba et des salaf sur l'explication du verset. Mais il est très moufi. Après les tafsirs, il y en a beaucoup. On a celui de Shilqiti rahmatullahi alayhi adwa al-bayan qui se démarque des autres dans le fait qu'il ne fait référence que aux versets qui s'expliquent par d'autres versets. Mais malheureusement, Cheikh Shilqiti rahimahullah mourut avant de le finir. Il mourut avant de le finir et s'arrêta à Juz Qad Sami'a Allahu Qawla Allati. Yani les six derniers hizb. Et son élève, Muhammad Atiyat Salim, rahimahullah, d'après la recommandation de Cheikh Ibn Baz et de Cheikh Al-Abbad, l'a complété. Donc on trouve maintenant des nosakhs de Adwa al-Bayan qui vont jusqu'à Nas, jusqu'à la fin du Coran. Mais ça fait que de Qad Sami'a jusqu'à Surat Nas, c'est pas Shilqiti qui l'a fait. C'est son élève, son plus grand élève, Muhammad Atiyat Salim, rahmatullahi ala al-jami'a. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas à prendre. Son plus grand élève a su, masha'Allah, compléter l'œuvre de son cheikh. Et c'est un tafsir rempli de trésors et de sciences, mais il n'est pas à la portée de n'importe qui. Il est quand même assez corsé. Après, on a les tafsirs de certains ulama qui avaient lieu dans les mosquées et qui ont été retranscrits sous forme de livres comme Cheikh Al-Uthaymin, comme on disait tout à l'heure. Walakin, malheureusement, kadhalik, on n'a pas tout le Coran. Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullahi alayhi, comme Cheikh Mohamed Al-Aman disait de lui, c'était Shafi'i de cette époque. Parce qu'il avait un pouvoir de déduction développé, mais à un degré très élevé. Regardez maintenant dans le tafsir surat al-Ma'idah. D'ailleurs, vous remarquez que Cheikh al-Uthaymeen, lorsqu'il fait le tafsir du Coran, il donne le sens global du verset, en expliquant les mots plus ou moins compliqués, et à la fin, il dit toujours « wa yustafadu min hadhihi al-aya » et on retire de ce verset « wa min fawaid hadhihi al-aya » et parmi les morales de ce verset, et puis les énumère les unes après les autres. Et bien dans le tafsir surat al-Ma'idah, dans le verset de l'Wudu, « Ya ayyuha alladhina amanu idha kumtum ila salati farsilu wujuhakum ila akhir al-aya » il a énuméré plus de 75 fawaid sur un seul verset. Cheikh Mohamed Aman, rahmatullahi alayhi, quand il a dit que Cheikh Al-Uthaymeen c'était Shafi'i de cette époque, c'est pas pour rien. Parce que Shafi'i, rahmatullahi, était connu pour avoir ce pouvoir de déduction. Capable d'extraire des textes un nombre incalculable de fawaid, de moralité, de science. Et كذلك الستيل دو شيخ العثيمين reste abordable même pour quelqu'un qui n'a pas un niveau extrême en arabe sauf dans certaines sourates. Ah, مثلا le tafsir de sourate al-Kahf de Cheikh al-Uthaymeen est plus simple que tafsir sourate Yassine de Cheikh al-Uthaymeen. Parce qu'on remarque dans tafsir sourate Yassine, Cheikh al-Uthaymeen il fait beaucoup d'i'rab, il fait beaucoup d'analyse grammaticale, et sachez, pour en revenir à l'importance de la grammaire, que ça aide à comprendre le Coran, et que des fois une haraka te change complètement le sens du verset. Et des fois, on a des qira'at différentes, dans lesquelles on a des différences au niveau justement des harakat. Hein? وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ عِنْدَ حَفْصِ وَحَتَّى يَقُولُ الرَّسُولُ عِنْدَ وَرْشِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٍ عِنْدَ حَفْصِ ومسخرات عند ورش. Pourquoi لا انضم الى الكسر علاش اعراب différent donc sens différent. Et donc je disais dans le tafsir sur la Yassine de Cheikh Al-Uthaymeen, on remarque qu'il insiste beaucoup sur les nuances grammaticales et sur les analyses grammaticales des versets, ce qu'il ne fait pas dans sourate Al-Kahf dans son tafsir. Al-Muhim, dites-vous que c'est très important d'apprendre, de connaître le sens du Coran, parce que c'est la mère, c'est la source de toutes les sciences. Tu vas faire du hadith, tu auras besoin du Coran. Tu vas faire du tafsir, tu vas faire du sens du Coran. Tu auras besoin du fiqh, tu feras du fiqh, tu auras besoin du Coran. Il n'y a pas une science dans laquelle tu vas pénétrer sans que tu n'aies besoin au préalable de la bonne compréhension du Coran. Et Allah tabaraka wa ta'ala t'a ordonné dans le Coran de méditer sa parole, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, Coran. Afala yatadabbaruna al-Quran wa law kana min 'indi ghayri Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Ne vont-ils pas méditer le Coran? Et certes, s'ils venaient d'autre qu'Allah, ils y auraient trouvé de nombreuses divergences. Coran. Ibn Jarir rahmahullah disait: inni la a'jab mimman yatalazzadhu bi qira'ati al-Qur'an wa la ya'rifu ma'nahu. Ibn Jarir disait rahmahullah: je m'étonne de voir quelqu'un savourer la lecture du Qur'an alors qu'il ne comprend pas son sens. C'est étonnant quand même. Ajib. Et c'est bien beau alhamdulillah d'avoir des cours en français traduits qui vous expliquent et vous approche plus ou moins le sens, mais wallahi, vous savez pas à côté de quoi vous passez. Et rien que pour ça, ça devrait être suffisant pour vous motiver pour apprendre l'arabe et donner 2-3 ans pour pouvoir savourer ce de quoi parlait Ibn Jarir, rahmatullahi alayhi. Troisièmement, on passe au fiqh. Al-fiqh, c'est donc la science qui regroupe les adorations, comment elles doivent être appliquées. Le faire, lorsque vous lisez dans les kutub, vous trouvez des marahis pour les débutants, pour les intermédiaires et pour les avancés. Nous, on se prend mal en faire. parce qu'on est, on n'a aucun niveau en fiqh, et on vient, on dit, non mais l'imam Malik s'est trompé quand il a dit ça. Moi ça m'a toujours tué, quand je vois deux frères en train de naqash sur une mas'ala fiqhiyya, alors que ni l'un ni l'autre ne connaît rien du fiqh. Je vous donne un exemple, tout ça, on est tous passés par là. Mas'alatu ada'i an-nafila fi waqti an-nahy. Le fait de faire une nafila dans les temps où c'est interdit. Nous on arrive fraîchement et on a lu trois phrases dans un paragraphe et on a mis une croix sur la mas'ala. C'est ma'rouf. Hein? An-nawafil dhawat al-asbab mustathna min an-nahy. Et c'est bon, hop, le khilaf, on a jeté la poubelle. Hein, comme quoi les prières surérogatoires ayant une cause, comme celle qu'on fait en rentrant dans la mosquée à l'heure de l'asr, ou bien après, ou bien entre le fajr et le shuruq, ou bien inda waqt az-zawal, lorsque c'est le zénith. On prend la parole donc de savants qui disent que les prières surérogatoires ayant une cause sont une exception à l'interdiction globale du hadith. Qui peut me dire ici qui parmi les quatre imams a cette parole-là? D'accord. Là. Le premier. Al-Shafi'i. Al-Shafi'i. Des quatre. Huwa al-awwal qui a eu cette parole-là. Et taban, vous allez tous me dire qui voit que waqtu an-nahy ya'um jami' an-nawafil? L'imam Malik. Tout le monde sait ça. Et on vient. Ah, puis l'imam Malik. Je t'ai trompé. C'est bon. Vous savez qu'il y a des savants qui disent la mas'ala est tellement qawiyya, elle est tellement forte, les hadillas sont tellement fortes des deux côtés qu'ils préféraient rester devant la porte de la mosquée avant l'asr, pendant le temps où c'est interdit. Ils préféraient ne pas rentrer tellement ils étaient perplexes. Attends, si je rentre dans un waqt de nahi, dans un moment où c'est interdit, et que je m'assois, j'aurais désobéi à celui qui me dit ne t'assois pas tant que tu n'as pas prié la ka'atayn. Mais si je prie la ka'atayn, j'aurais désobéi à celui qui me dit ne prie pas à ce moment-là. Je ne rentre pas dans le tafsir. Mais vous croyez franchement que les grands savants du madhhab de l'imam Malik se sont arrêtés à la parole de Shafi'i? Oh, vous nous avez battus. Non, ça ne marche pas comme ça, les gars. Les savants de Shafi'i, ils ont mis des adillah qui les ont poussés à Rajah. Le qawl, comme quoi ça ne concerne pas les prières surérogatoires à cause, ayant des causes. Et le malikiya, c'est ça, le munaqasha, zat tarjih. Le malikiya, ils ont pris les adillah de Shafi'iyya et ils y ont répondu avec d'autres adillah. C'est pour ça, mes frères, que l'étude du fiqh, elle est très importante. Parce que premièrement, elle te rappelle le respect que tu dois avoir envers les savants. Tu crois franchement qu'Ibn Abd al-Barr, ou bien Ibn Sahnoun, ou bien Al-Khalil, Al-Qadi Iyad Ahsan, ou غيرهم من أئمة المالكية, tu crois qu'ils ne sont pas au courant de ces adillah, tu crois? Tu dois avoir un husn al-dhan, une bonne opinion envers les savants. Et surtout, reste à ta place. Tu mets un ahad. Toi, tu viens, tu sors de. Comment on a dit, c'est 158, c'est ça? Hein? Sors du 59, c'est bon, moi j'ai fini, même Malik c'est trop peur, c'est fini, on passe à autre chose. Hey, j'aime la ikhwan. Ça c'est une mas'ala à la sabil al-mithal. Mais quand tu demandes à Sheikh al-Khudayr, hafidahullah, et qu'il passe un quart d'heure à t'expliquer le khilaf, et qu'à la fin il te dit, c'est un khilaf qawi, al-ahsan, si on peut éviter de rentrer à la mosquée à ce moment-là, on évite. C'est dit ça. Et toi tu viens, tu connais rien ni personne. Et tu viens, non, c'est bon, c'est Al-Rajih, c'est ça. Il y a une autre chose aussi. C'est pas d'ijtihad. Ijtihad, c'est pas pour toi. قال الشاعر إن لم يكن عون إن لم يكن عون من الله للفتى نعم إن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. إن لم يكن عون من الله للفتى, s'il n'y a pas de la part d'Allah une aide envers le jeune, la première des choses qui le finit, c'est ses ijtihad. c'est ses efforts de réflexion. Ah, moi je pense que c'est lui qui a raison. Ah non, c'est lui qui a raison. Et ça fait rire quand tu arrives dans la mosquée, tu vois des frères en train de naqash sur la masala. T'as dit que ça c'est un kafir ou c'est pas un kafir. Ouais, mais Harry, attends, tu crois que Cheikh Albani il a dit ça? Non, mais attends, Cheikh Albani. Eh, mes frères, c'est vous qui allez finir l'histoire là? Hajib Had. Tu leur parles de Moujmel, de Moubayin, de Moukhassas, de Am, de Moutlaq, de Moukayyad, tu leur parles de Nasir, de Mansour, de. Et tu quoi? Tu comprends rien, hein, c'est du charabia tout ça. Mais il est là en train de te dire, ouais, mais Harry, ça se voit que Cheikh Albani il a raison. Ok, ça se voit que Cheikh Al-Athamin a raison, ça se voit comment? Ça a des lunettes 3D? Comprends pas? Mais il y a aucun had. Voilà le fiqh, c'est wasi' jiddan. Et nous, on se perd, c'est vrai. Min usul ahli sunnati wal jama'a, annahum la yuqallidun. Parmi les usul de ahli sunnati wal jama'a, on ne fait pas de taqlid. On n'imite pas aveuglément les gens. Même si c'est des a'lam, des savants. Même si c'est des a'lam. Et comme il disait Ibn Taymiyyah, rahimahullah, al-taqlid, bi manzilati al-maytah, la yubah illa inda al-darura. Al-taqlid, l'imitation, elle est comme la bête morte, celle qui a été tuée ou qui est morte, sans qu'on l'ait égorgée, comme l'islam le demande. On n'y a droit que dans la nécessité. Nahnu la nuqallidu al-ashkhas, fa inna al-haqq la yu'rafu bil-rijal, wa inna ma yu'rafu al-rijal bil-haqq. La vérité ne la connaît pas par les gens, mais c'est les gens qu'on reconnaît par la vérité. D'accord, on est tous d'accord sur ce point-là, il n'y a pas de problème. Alors, mais le problème c'est al-mutarattib. Qu'est-ce qui vient après cela? Aksaruna, on dit quoi? Moi je ne suis pas un madhab. Moi je ne suis pas un madhab. Moi je suis le dalil. Ben oui, les madhahib, ils n'ont pas de dalil, les madhahib. Bien sûr. Pas tous les grands ulama du madhab al-hanabila, ou al-malikia, ou al-shafi'a, ou al-ahnaf, non, ils n'ont pas de dalil. Toi tu es venu et tu as trouvé les dalil. C'est normal, toi. Normalement, en tant que mubtadi, ta première approche avec le madhab, c'est qawlul madhab. Et ahfadu hadihi marasib. Ahfaduha. Apprenez ces étapes à passer quand tu étudies le fiqh. Premièrement, tu suis un madhab. Et tu suis le qawl du madhab. Sans les dalil. Quand tu es un étudiant dans le fiqh, tu t'arrêtes pas. Directement, tu passes pas directement au tarjih. Non. C'est la dernière étape pour Allah ibarak fiqh. C'est la dernière étape dans le fiqh, le tarjih. Yani, c'est qui a raison, c'est qui a tort? C'est la dernière étape. Comment toi tu viens, tu parles de masail idam, des grandes masail, des grandes questions, et peut-être tu seras dans Bayt al-Wudu, si c'est quoi le faraïd dans les ablutions, tu ne seras pas capable de me les donner? Peut-être. Première étape, tu prends un madhab, et tu apprends du début à la fin le qawl du madhab. Nous, en général, hein, ceux qui suivent donc les ulama mathalan d'Arabie saoudite, qui sont en général donc Hanabila, et donc en général les cours qui nous arrivent concernent des livres de Hanabila, du madhab d'Imam Ahmed. Et en général, un des livres qui est étudié pour les débutants, c'est Zad al-Mustaqni' de l'Hajjawi, qui a fait le Mukhtasar de l'Mukhni' d'Ibn Qudama. Et ça, c'est des noms de savants Hanabila. En général, c'est ce livre-là qu'ils étudient. Chez les Malikia, ils apprennent le maître d'Ibn Ashir, ou bien l'Akhbari, ou bien d'autres. Ne croyez pas que les moutons existent dans le madhab de l'imam Ahmed. Non. Il y en a aussi dans le madhab Shafi'i, et aussi dans le madhab Maliki, et aussi dans le madhab Hanafi. Al-Muhim, tu apprends le madhab à la base, le qawl du madhab. Deuxième étape, tu refais le madhab, le qawl du madhab, cette fois accompagné du dalil. Yarhamukallah, ya Abdallah. La deuxième étape, tu reprends le madhab, cette fois tu l'accompagnes du dalil. Là, on n'apprend pas à des muqallidoun, on apprend à des fuqaha. C'est pas pareil. Les étapes, marahi. Tu reprends le madhab du début à la fin, et là tu prends les adillas du madhab. Et tu verras qu'il y a des adillas. Tu prends le umda, sharh al-udda, hein, et tu vas trouver les adillas justement du madhab al-hanbali. Il y a plein d'autres kutub qui font référence à cela. Kadalik chez al-malikia, kadalik chez al-ahnaf, kadalik chez al-shafi'iyya. Moi j'insiste sur le Hanbali parce que on a suivi cette formation et on suit donc les cours des savants. Hein? Troisième étape, ce qu'on appelle al-fiqh al-muqar. Al-fiqh al-muqar, c'est le fiqh comparé. Tu as fini avec ton madhab et les dalils de ton madhab, eh bien tu passes au madhab, au qawl des autres madhab. Au qawl des autres madhab. Hein? Et tu as des livres comme al-fiqh al-madhab al-arba'a al-jaziri qui ramène les aqwal du madhab des quatre madhab sans les dalils. Ou bien Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid d'Ibn Rushd al-Hafid qui lui il ramène les aqwal des quatre madhahib avec leurs dalil. Mais dans ces deux kutub il n'y a pas de tarjih mazal, il ne dit pas warrajih ou kala, yani la parole prépondérante est celle-ci. Là c'est pas encore. Et justement ces livres-là, ils ont pour but, entre autres, de t'entraîner au tarjih. De t'entraîner à dire al-rajih qawluhum. Al-rajih, c'est eux qui ont raison. Pourquoi ? Kada, kada, kada. Et enfin, dernière étape, et là, t'es un faqih mujtahid, c'est quand, en fonction de tous les éléments dont tu disposes, tu es capable, après avoir comparé les paroles des savants, en fonction de leur madahib, et des adilla qu'ils ont apporté, des preuves qu'ils ont apportées, et quand tu es capable, toujours avec les éléments qu'il faut, c'est pas de ta propre tête. Oh, moi je pense que c'est comme ça. Là, ça marche pas comme ça. Regardez dans Kutub Usul al-Fiqh, Bab al-Mujtahid, ou Ahkam al-Mujtahid, comme dans Waraqat al-Juwayni, ou bien des Kutub comme cela, à la fin tu as Ahkam al-Mujtahid. Quand est-ce qu'un savant c'est un Mujtahid? Quand il a ça, 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 ça et ça. Un résumé, comprendre et connaître l'arabe, comprendre et connaître le Coran, comprendre et connaître les hadiths et leur degré d'authenticité, hein? Comprendre et connaître les adilas de chaque madhab et les règles du fiqh. Et les règles du fiqh. Et nous, on ne connaît pas les règles du fiqh. Une fois, j'étais avec des frères, et il y en a un qui me dit, ya akhi, si quelqu'un il est éternu dans la prière, est-ce qu'il dit Alhamdulillah? Je dis na'am. Ja fi sahih muslim, in hadithi Muawiyah ibn al-Hakam, radiyallahu anhu, annahu dakhala fi s-salah, fa'atasa rajulan, fa'shammatah, faramahu al-nasu bi absarihim, faqala wa huwa yusalli, wa fakilatni ummayah, limadha tarmuna ilaya bi absarikum, fadarabu ala afkhadihim, ay, uskut, fasakat. فلما انتهى من الصلاة ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام البشر إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث de معاوية رضي الله عنه il rentre dans la prière et pendant qu'on priait quelqu'un il a éternué et il a dit Alhamdulillah. Lui a répondu يرحمك الله alors qu'il priait. Alors les gens ils l'ont regardé, ils ont montré avec leur regard que c'est toi. Mais il n'a pas compris. Il a dit que ma mère me perde, pourquoi me regardez-vous ainsi? Alors ils frappèrent sur leurs cuisses avec leurs mains. Et il a compris qu'il fallait se taire. Après la prière, le prophète l'a appelé et lui a dit, la prière est une adoration dans laquelle il ne convient pas s'il y a une parole humaine, autre que celle du Coran et du Tesbih, et ainsi de suite. Je dis le hadith là. Et je lui dis, al-shahid, le témoin du hadith, c'est quoi? C'est quand le prophète, alayhi sallam, il a reproché à Muawiyah d'avoir parlé, mais il n'a pas reproché à l'autre d'avoir dit alhamdulillah dans la prière. Ce qui prouve que ce n'est pas interdit. Alors il y en a un frère qui était présent comme ça, il m'a dit, c'est pas un dalil. Et je lui dis, Akhi, ce que je viens de te dire, c'est Sheikh Al-Usaymin qui le dit. Ah, ça change tout. Ah bon? Et nous le taqlid qu'on n'a pas le droit de faire, je crois qu'on n'a pas le droit de faire le taqlid. Tu lui ramènes le dalil, il ne le suit pas. Tu lui ramènes le Sheikh, il le suit. On n'a rien compris là. Et il y a aussi un truc qui m'a toujours tué, excusez-moi. C'est quand le frère vient de dire, Akhi, c'est quoi le dalil? Définis-moi le dalil. Tu vas me dire, ce qu'il y a dans le Coran, dans la Sunna, et les Sahaba et tout ça? Naam, d'accord. Maintenant, est-ce que tu crois que le Dalil, est-ce que tu sais me faire la différence entre le Dalil et l'Istidlal? Al-Dalil ou Al-Madloul? Dilalat Al-Alfaz? Je peux faire la différence entre ces deux termes-là? Il y a l'argument, le Dalil, et l'argumentation, la façon de se servir du dalil. Des fois tu dis un hadith, le frère dit, ah c'est quoi le dalil? Ou bien tu dis un hukm, tu dis, qu'est-ce que il dit, c'est quoi le dalil? Tu dis, Allah, rawahu al-bazzar fi sunanihi, Allah, va le chercher. Ou bien, rawahu abdurrazzak, akhrazahu abdurrazzak fi musannafi. Des fois tu leur sors des noms de huffaz, ils ne connaissent même pas. Il est mawjoud fi mushaf, afish fi musnad al-shamiji. Ou bien fi musnad al-humaydi. Il y en a plein des ulama qu'on ne connaît pas dans le hadith. Mais toi tu viens, tu fais, et c'est quoi le dalil? On dirait, tu vas lui dire, c'est ça? Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Parce que moi je connais tous les dalils, je sais que t'auras raison, t'auras pas raison. Hajib. Il y a aussi un autre point, c'est que la plupart d'entre nous, on est des muqallid. Le muqallid, c'est celui qui suit la parole de son shir sans connaître le dalil. Et le muqallid, il n'a pas le droit de parler. Ibn Abdelbar, rahimahullah, yanqul al-ijma' ala anna al-muqallid alaysa aliman. Ibn Abdelbar, il ramène le ijma' comme quoi? Le muqallid, l'imitateur, c'est pas un savant. Même s'il connaît le mughni par cœur. Le mughni, c'est quoi? Hein? J'entends pas? Non! Ahsan, man muallifuhu? Ahsan, Ibn Qudamah, Ahsan Tuma, Ibn Qudamah al-Maqdisi. Le mughni, c'est un livre dans le fiqh. C'est l'une des plus grandes encyclopédies dans le fiqh hanbali. Mais muqaran, avec les madahib. Et les aqwal. Ibn Qudam al-Maqdisi, rahimahullah. Il y en a, ils le connaissent par cœur. Par cœur. Et pourtant, la tabara que j'ai, il y a 15 volumes. Moi, j'ai pas trois mains. Il y a 15 volumes. Et des volumes épais comme ça. Par cœur. Mais si tu lui dis, qu'est-ce qu'il dit Ibn Qudama? Il te sort tout. Il se tape. C'est quoi le dalil? C'est pas un adou. C'est pas un adou. Et le muqallid, il n'a pas le droit. La yajouzu lahu an yulzima ghayrahu bima qallada. Le muqallid, il n'a pas le droit d'imposer aux autres ce que lui, il imite. Et c'est ce qu'on fait. Comment d'entre nous, on a pris un qawl d'un alim, une parole d'un savant, sans savoir ce que les autres disent, sans savoir ce que son dalil, et tu vois, tu dis, ah, tu n'as pas le droit de faire ce que tu es en train de faire là. Qu'est-ce que tu fais là? Vous voulez un exemple? Bid'iyat al-masbaha. Hein? Est-ce que le chapelet pour lequel, avec lequel on fait tasbih, c'est bid'a ou pas? Il y a des savants, ils disent oui. Il y a des savants, ils disent non. Hein? Il y en a qui disent oui, c'est le bid'a. Comme Cheikh Al-Bani, rahmahullah. D'autres qui disent non. Comme Cheikh Al-Uthaymin, rahmahullah. Ou les kullin dalilu. Chacun, il a sa preuve. Maintenant, tu connais les dalils de ceux qui disent que c'est une bid'a? En général, non. Et tu connais les dalils de ceux qui disent que c'est pas une bid'a? En général, non. Alors pourquoi tu viens de regarder travers celui qui fait tisbih? Hein? Dans le Sharh al-Mumti' de Cheikh al-Uthaymin, vous allez dire, je dis beaucoup Cheikh al-Uthaymin, j'ai plus rien, c'est un de mes préférés. Rahmatullahi alayhi. Dans Sharh al-Mumti', dans le volume 4, si je ne me trompe pas, lorsqu'il parle de Salat dans le kitab, Salat al-Tatawwu', les prières surérogatoires. Il commence avec al-Witr et al-Tarawih. Et il parle dans le Witr de Dua al-Qunut. Hein, comme on fait pendant le Tarawih pendant Ramadan. Et dans le Madhab, c'est marqué, tu essuies ton visage après avoir fait Dua. Dans le Madhab, c'est marqué ça. C'est l'imam Ahmed. Ça me dit, on m'a pris, c'était bid'a. Non. Je veux dire, je n'ai pas de dalil, celui comme ça, il y a un hadith. Il est rapporté par l'intimité d'après Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu. Comme quoi? Pour être qu'il laisse les invocations, c'est suivre le visage. On m'aurait menti? Tu pas notre le cycliste qui a dit, mon ref. Al-Muhim? Al-Muhim? Maintenant, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, Al-Hadith bi-jami'i turuqihi da'if. Ibn Taymiyyah dit, le Hadith bi-jami'i turuqihi, dans toutes ses versions, il est da'if. Donc là, yuhtajju bihi, voilà, n'amalbi. On ne s'en sert pas comme argument et on ne le met pas en application. Donc forcément, celui qui voit que le hadith n'est pas sahih, celui qui l'appliquera, il aura fait une bid'ah. Mais, c'est toujours le mais. Ibn Hajar, qu'est-ce qu'il a dit, rahimahullah? Il a dit, al-hadith, bimajmou'i turuqihi yartaqi ila darajati al-husn. Il dit que le hadith, en regroupant toutes ces turuqs, il atteint le degré du hasan. Et toi, tu vas venir dire, Ibn Hajar, tu t'es trompé? Ibn Hazar, dont Cheikh Al-Bani a dit, il n'y a pas une mère qui a enfanté quelqu'un comme Ibn Hajar? Bien entendu, après les prophètes et les sahaba et les salaf, bien entendu. Hein? Toi, tu viens du 93, on va laisser le nord tranquille. Oh, Ibn Hajar, il s'est trompé. Bien sûr. Et qu'est-ce que dit Cheikh Al-Uthaymin après tout ça? Il dit, moi, je vois la vie de Cheikh Ibn Taymiyyah comme quoi il est daïf, le hadith. Et les ilal, les causes, les défauts présents dans le hadith sont trop forts pour pouvoir, pour qu'ils puissent se compenser, pour qu'ils puissent toutes ces versions se compenser. Mais, si tu vois quelqu'un s'essuyer le visage après la douleur, demande-lui, Yahri, pourquoi tu fais ça? Comme la plupart des gens, ils te disent ça. Ah, tu dis, Yahri, le Karim, hein, ça c'est un hadith daif, tu ne le fais pas. Maintenant, s'il arrive que tu viens, tu vas voir quelqu'un, tu dis, fais pas ça, Yahri. Il dit pourquoi? Ibn Hajar lui rapporte dans Bulugh al-Maram et le Hassan et c'est le qawl de Mathab al-Imam Ahmad et de ses atba'. Tu vas dire quoi? Ouais mais Cheikh Ibn Taymiyyah a dit ça, c'est tout. Ça marche pas, des noms. C'est pas avec des noms qu'on fait des niqash. C'est avec des dalils. C'est avec des dalils. Donc, wallah, mes frères, l'étude du fiqh, elle est très très importante. Elle est très importante. Parce qu'elle t'ouvre la poitrine au khilaf. Elle t'ouvre la poitrine au khilaf, le khilaf qui est maqboul, qui ne va pas faire des clans et des guerres entre les gens parce qu'ils ont un avis différent. Et il y a une risale très très bien qui a été écrite par Cheikh Al-Uthaymin qui s'appelle Al-Khilaf. Hein? La divergence. Et qui t'explique la divergence. Et que tu vois même chez les salafs des divergences nombreuses. Si peut-être toi aujourd'hui à cause d'une de ces divergences-là, tu serais capable de taxer d'innovation ton frère, ou de dire que c'est plus ton frère. Alors qu'avant, ils avaient des avis différents et puis ça les dérangeait pas. C'est comme Al-Shafi'i et Ibn Hubayra, rahmatullahi alayhima. Al-Shafi'i voyait que le maqsoud bi qawlihi ta'ala, thalathata quru', c'était thalathu haydat. Ibn Hubayra, il voyait que c'était thalathu tathirat. L'axe. Parce que le mot en arabe, il a les deux sens. Lorsque la femme, elle est divorcée, elle doit patienter trois menstrues. Quru, jam'u qar'a. Et le muqar en arabe, il a les deux sens qui sont opposés. Azdad. Yani, ça veut soit dire la période de menstrue, soit dire la période de pureté. Et ils ont divergé tous les deux. Toute une journée, ils ont passé à débattre l'un contre l'autre. C'est qui a raison? Et Shafi'i disait non. Al-maqsoud minhu al-hayd. Bidalil qawlihi kada wa kada wa kada wa kada. Il dit non, ça veut dire les menstrues. À cause de tel. Et tu disais non, ce n'est pas ça, ça veut dire ça. Toute la journée, ils ont passé à débattre tous les deux. Le soir, chacun il rentre chez lui et il réfléchit aux paroles de l'autre. Shafi'i, comme ça, il fait. Eh ben si, c'est vrai, il a raison. Et Ibn Hubayra chez lui, il fait. Ah ouais, il a raison. Le lendemain, il se retrouve. Ah, kif halak, wallah, ana ta'ammaltu fi kalamik al-ams, wa wajadtu anna as-sawab ma'ak. Tu fais, la, ana ta'ammaltu kalamik bil-ams, wa wajadtu anna as-sawab ma'ak. Et c'est reparti pour un tour. Et là, ils ont naqash une deuxième fois en défendant la vie de l'autre. Donc ils sont revenus, ils sont vus le matin, ils ont dit « Ah, j'ai réfléchi ce que tu m'as dit hier, j'ai bien réfléchi en rentrant, et finalement t'avais raison. » Ils ont dit « Mais non, c'est toi t'avais raison, parce que t'as dit telle chose. »« Oui, mais non, mais tu m'as répondu comme ça. » Et après, ils ont recommencé à débattre en défendant chacun la vie d'autre qu'ils avaient la veille. Agis. Est-ce qu'ils se sont fait la tête? Est-ce qu'ils se sont coupés? Ils ont coupé les liens de parenté, les liens entre eux? Est-ce qu'ils se sont taxés les uns des autres d'innovation? Là, mes frères. Si on ne comprend pas c'est quoi le khilaf dans le fiqh, on n'a rien compris. Il y a des masaïl, azim, hein, des questions grandes et grandioses, notamment celles qui touchent à la aqidah, à la croyance. Oui, dans certains cas, na'am, ça peut arriver jusqu'à là. Moi, celui qui me dit, Allah, il est partout, je ne suis pas d'accord avec lui et je le combats sur cette croyance. Celui qui me dit la parole d'Allah, elle est créée, je ne suis pas d'accord avec lui et je le combats sur cette croyance. Et s'il s'obstine, na'am, c'est un mubtadi' et il aura ce que méritent les mubtadi'. Quant à celui qui vient et te dit, écoute, Akhi, nous, après le recours, on voit qu'on pose pas les mains sur le sadr. Akhi, Bakhi, Inch'Allah, moi, je vais en poser les mains sur le sadr. T'as un dalil? Non, mais je suis Cheikh Albani. Et toi, t'as un dalil? Non, mais je suis Cheikh Ibn Baz. Alhamdulillah. C'est ça, Ahlus Sunnah wal Jama'a. C'est ça, Ahlus Sunnah wal Jama'a. Et ça, Inch'Allah, tu le comprendras en étudiant usul al-fiqh, qawa'id al-fiqh et al-fiqh. Walakin tariq tawil. Tariq tawil. Quand tu commences à kitab tahara, et que tu finis Al-Hudud, t'en as des chapitres à voir. Oh là là, Le hudud, ce n'est pas les frontières. Le hudud, c'est le had, c'est les punitions. Pour les certaines peines, certains péchés qui méritent punition. Il y en a du chemin, mes frères. C'est long. Essayez juste de lire un matn dans un madhhab. Seulement. Du début à la fin. Et vous verrez. Il y en a des choses à étudier, mes frères. Il y en a des choses à étudier, mes frères. Et on n'est pas encore arrivé, mes frères. On est loin de la fin. Très, très loin. On a ensuite al-hadith. Al-hadith. Riwayatan wa dirayatan. N'oublions pas qu'on parle des tulab ilm. Hal ishta'alat fi qulubikum hadhihi al-himma? Ajibu, law fahimtum. Zahir annakum ma fahimtum. On a parlé de motivation. Est-ce que vous êtes motivés, mes frères? C'est un âme timide, ça. Les femmes, elles sont de l'autre côté là-bas. C'est elle qui parle pas. Les hommes, ils disent un bon oui. Hein? Non. Idem, vous êtes motivé pour apprendre la science? Oui. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, al-hadith, il y a deux matières. Riwayatan wa diraya. Riwaya, c'est dans le rapport. Comment le hadith nous est arrivé? Wa diraya, dans la science. Qu'est-ce qu'il concerne le hadith comme science? Et le hadith, il demande du hifz. Il demande du hifz, de l'apprentissage. Et moi, je ne comprends pas. Comment un livre comme Al-Arba'in al-Nawawiyya, très peu d'entre nous l'ont appris. Très peu d'entre nous l'ont appris. Comment là, tu peux venir être content d'asseoir devant Cheikh Al-Abbad, Hafidahullah, dans le Masjid al-Nabawi, qui fait le charh d'un kitab de hadith, et tu ne sais pas c'est quoi Al-Arba'in al-Nawawiyya? On devrait tous connaître Al-Arba'in al-Nawawiyya. Je m'adresse bien entendu au Tullab ilm. Après Nartaqi, comme disait l'ulama, Al-ilm Ashraf ma yunat wa a'la wa yahtaj ila ma yurtaqa ilay. Sulla. La science, c'est ce qu'il y a de plus haut à atteindre. Et forcément, tu as besoin d'une échelle, je vais y arriver, pour monter. Et tu commences avec le début de la science, le petit, avant d'arriver au grand. Tu commences avec Al-Arba'in al-Nawawiyya, ensuite avec Umdatul Ahkam, ensuite avec Bulugh al-Maram, et après tu t'attaques au Mutawwalat. Est-ce que tu apprends les Hassanides avec? Je veux un conseil d'un. Quelqu'un qui s'est cassé les dents à essayer et qui n'a pas réussi? Non. Tu vas me dire, n'apprends pas les noms. Si. Quand tu connaîtras les rapporteurs, eh ben, tu pourras apprendre les noms. Et après, il y a des façons, il y a des techniques qui facilitent. Mathalan, tu prends Sahih al-Bukhari, et tu répertories les hadiths différemment de ce qu'ils sont actuellement dans le livre. Comment? Par rapport aux Hassanites. Tu regardes bien les Hassanites et les chaînes de transmission. Si tu regardes bien, tu vas trouver de nombreux hadiths qui ont la même chaîne de transmission. Les mêmes rapporteurs dans des hadiths différents. Regroupe les hadiths par chaîne de transmission. Yarhamukallah. Tu vas apprendre une chaîne de transmission, tu l'auras apprise, ce sera la même dans 40 hadiths. Tu auras gagné du temps dans 40 hadiths. Wahakada. Et si tu peux, tu fais ça avec Kutub Sitta. Et la fin, c'était quoi Kutub Sitta? On lève la main. D'accord, c'est quoi les noms? Al-Mu'tariyat d'akhil fi Kutub Sitta. Là. ارفعوا من هذا الكلام فليرفع يده الاخ نسائي جديد الاخ احمد لا احمد يبقى مكتوب ترى المبكى ابو داود ايه لا صحيحين البخاري ومسلم كتب سته البخاري ومسلم الترمذي أبو داود ابن ماجه والنسائي. كذلك tu as dans ces 6 livres des hadiths qui sont rapportés, tu les trouves dans les 6. Regroupe-les et quand tu l'auras appris là, tu l'auras appris 40 fois. Pourquoi 40 fois? Parce que des fois tu trouves le même hadith plusieurs fois dans des abwab différents, dans le Bukhari, au bas de Muslim et ainsi de suite. Ces façons de faire elles sont un peu difficiles, mais qu'est-ce qu'elles font gagner comme temps? Cheikh Al-Khoda, il a dit, tu peux apprendre Kutub 7 ans, 5 ans. Cheikh Al-Khoda, il a dit, de cette façon, tu peux apprendre Kutub 7 ans en 5 ans. Et ilm al-hadith, c'est du hifz. Regardez dans Kutub al-Rijal, dans les livres qui répertorient les rapporteurs, dans Shurut al-Siha, il y a Dabt. الضبط وعن العدالة والضبط. الضبط، c'est comment il a appris, comment il a retenu, comment il a transmis. Et ça, ça demande une mémoire. Al-Munir. Moi, une des choses qui m'a le plus étonné de ma vie que j'ai vu avec mes yeux, c'est Cheikh Al-Abbad, Hafidhahullah, Mazin Nadawi, quand il fait le tahqiq du Sanad en live. Ah, c'est impressionnant, wallah. Fulan, Siqa, akhrajahu ashabu kutub sita. Suivant. Fulan. Ah, oh, c'est impressionnant, wallah. Hajib wa gharib. Ce que j'avais imaginé dans ma tête, je l'ai vu en vrai avec Cheikh Al-Abbad. Impressionnant. Bien entendu, on l'a entendu dans les cassettes avec d'autres savants, mais quand tu le vois en vrai, c'est pas pareil, wallah. Je dis, wow. Ah, c'est fort. Je crois que c'est l'heure, non? Taïf. Al-Muhim, donc, dans le hadith, on a dit l'apprentissage. Mais ça doit être précédé par quoi? Al-Mustalah. المصطلح سلا ترمينولوجي حديث خيادة كتب فاسيل pour les débutants comme البيقونية un petit نظم d'une trentaine de abiyat qui est à la portée de tout le monde. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل إلى آخره. Après on a النخبة الفكر pardon d'Ibn Hajar qui lui aussi a été sous forme de نظم par الأمير الصنعاني qui s'appelle قصب السكر. Et on a le top, c'est Alfiyatul Iraqi. Une Alfiya en 1000 bêtes. Man laha. Si tu apprends 3 bêtes, 3 vers d'un poème de 1000 vers, tu l'apprends en un an à peu près. 3 bêtes par jour. C'est beaucoup? Non. Al-Waqt, mes frères. Le temps. Ne dites pas que vous ne l'avez pas. Dites, je fais n'importe quoi avec. Dites pas, j'ai pas le temps. Al-Muhim, tu apprends ces kutub, tu les étudies, les bayquniya, avec les shuruh des shuyukh dessus, Nukhbatul Fikar Kadek avec les shuruh des shuyukh dessus, et ainsi de suite. Et quand tu auras étudié ces livres-là, tu comprendras le sens du sahih, les dhatihi, wa les ghayrihi, wa al-hasan, les dhatihi, wa les ghayrihi, wa al-za'if, wa aqsamuh, al-mursal, والمعضل والمنقطع الانسيتوت الموضوع المعلق والمقطوع والموقوف والمرفوع الى افهم كتبوا علم الحديث. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit darawi ikhtalata fi akhirih? Je vous demande pas, mais posez-vous la question, c'est sûr. Quand tu lis un tahqiq de Cheikh Albani maintenant dans un hadith, ce hadith est ضعيف لان فيه جبرون ابن عيسى البلوي قال الحافظ في التقريب سيء الحفظ. C'est des moustalahats, on a besoin pour comprendre ces kalams. C'est des termes, on a besoin pour comprendre ce qu'il veut dire le savant dans ces kalams. Ou le jarh wa ta'adil. On est tous des ulama du jarh wa ta'adil maintenant. C'est vrai, c'est pas vrai. Mais c'est qui a déjà pris le temps de lire une idée dans les qawa'id de jarh du ta'adil? Qui peut me donner le nom d'un auteur qui a écrit un livre dans jarh wa ta'adil? Al-Muhim, en général, les Hufad, ils ont leurs Qawa'id. Et comme le Jarh et le Ta'dil, c'est un ilm ijtihadi, c'est pas tawqifi. Dans le sens où, les savants, ils ont dû faire des efforts de réflexion pour arriver à déterminer le sens de ces règles. C'est pour ça qu'on trouve des différences chez les savants dans le Jarh et le Ta'dil. Et c'est pour ça qu'on trouve des savants qui sont sévères dans le Jarh et des savants qui sont laxistes dans le Ta'dil. Et c'est pour ça qu'il existe des divisions, des catégories de savants qui sont connus pour leur dureté dans le jarh, la critique, et d'autres pour leur laxisme dans l'éloge, et d'autres qui sont mu'tadil. Hein? Comme la ibara al-ma'rufa qui disait la ibrata bi wad' ibn al-jawzi wa la tashih al-hakim wa la ijma' al-mundir. Il disait, la ibrata bi wad'il ibn al-jawzi. Ibn Jawzi, il a un kitab qui s'appelle Al-Mawdu'at, dans lequel il réunit plein de hadiths qui voient qu'ils sont mawdu' et inventés. Mais le problème, c'est qu'Ibn Jawzi, il avait, il faisait ça assez rapidement. À un point où il a répertorié plus de 40 hadiths dans le Musnad de l'imam Ahmed qui sont mawdu' pour lui. Et les savants, ils ont tous repris là-dessus. Et le Hakim Kadalik, quand il dit que c'est sahih, c'est à revoir. Parce qu'il avait un certain laxisme dans la détermination du hadith comme étant sahih. Des fois, il voit un hadith, il est sahih, alors qu'il est mawdu'. Al-Munziri, il avait l'habitude de dire qu'il y avait ijma' en telle mas'ala, alors qu'il n'y avait pas ijma' en cette mas'ala. Et il y a des savants qui sont connus comme ça. Comme Ibn Hibban. Ibn Hibban, kana yuwaffiqu al-dha'if wa yudha'ifu al-thiqa. Ibn Hibban, il avait l'habitude de considérer le siqa, le fiable parmi les rapporteurs, comme étant da'if, mais pas tout le temps, certains bien entendu. Comme des fois, il considérait le faible comme étant siqa, yani fiable. Comme Ibn Duraik. Ibn Duraik, min rijal al-Bukhari. On le trouve en Sahih al-Bukhari. Eh bien, Ibn Hibban, il a dit da'if. Et le seul qui l'a wafaq, c'est Ibn Sa'd al-Tabaqat. Et bien entendu, qu'il y a un khilaf entre Ibn Hibban et al-Bukhari, c'est le Bukhari qui l'emporte. Et ce qawa'id nous apprend où? Dans Kutub al-Rijal, le Mustalahat. Nous, on vient pas marquer Jarahwa al-Ta'dil. On connaît deux qawa'id dans Jarahwa al-Ta'dil, d'ailleurs, on a fait le tour de Jarahwa al-Ta'dil. Non, on n'en connaît qu'une. Al-Jarah al-Mufassal al-Muqaddim ala al-Ta'dil al-Mubham. C'est la seule qawa'id qu'on connaît de Jarah. Dans Jarahwa al-Ta'dil. Est-ce qu'on l'a comprise? Allahu a'lam. Jarh al-Mufassal, la critique détaillée prévaut sur l'éloge flou, ambigu. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que les savants, ils ont dit? Comment ils ont déterminé le détail de la critique? Comment? À partir de quand une critique, elle est considérée comme étant détaillée? Est-ce que toi, tu connais la qaïda qui dit Al-Ta'dil al-Mufassal muqaddim ala Jarh al-Mubham? Tu la connais la qaïda, toi? Que l'éloge détaillé prévaut sur la critique floue. Mais cette qaïda n'est pas applicable tout le temps. Ça dépend de qui critique. Quand l'imam Ahmad il dit matrouk, ça suffit. Même s'il n'y a même pas de dalil. C'est l'imam Ahmad, rahimahullah. Mais il faut savoir ces règles-là. Et qu'est-ce qu'il dit Zahabi, rahimahullah, quand il répertorie les huffaz Bayna mutashaddid wa mutasahil wa mu'tadid. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit beaucoup de choses. Voilà qu'une de ces choses-là, malheureusement, on ne cherche pas à les comprendre. On ne cherche pas à les connaître. On ne sait même pas qu'elles existent. Nous, on a pris une qaïda, c'est bon, tu connais Jarh al-Ta'dil, tu connais la qaïda. La qaïda est ma'roufa. Tous les frères du Minhaj, ils connaissent cette qaïda. Tous, sans exception. Tous. Mais il n'y a pas qu'une qaïda dans Jarh al-Ta'dil quand même, subhanallah. C'est une qaïda wahda bas. Des kutub et des kutub mu'allafa fi hada al-bab. Wa la nazkuru minha illa qaïdatan wahida. Je ne critique pas la règle. Elle est connue, elle est considérée, les savants, la matière. Il n'y a pas de problème sur la règle. Eh ben, mais sachez que des fois, ces règles-là, elles sont appliquées et comprises différemment d'un savant à un autre. Et pourquoi toi tu ne dis pas, quand Ibn Hibban, il n'est pas d'accord avec le Bukhari, qu'Ibn Hibban, ben, il faut mettre une croix sur lui? Pourquoi? Réfléchissez à ces choses-là. N'oubliez pas que Jarh wa Ta'dil, à la base, c'est dans Ilm al-Hadith. N'oubliez pas. Al-Muhim. J'avais encore d'autres choses à dire, mais on le dira plus tard, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولعلي أختي parce qu'il me reste pas beaucoup, je finirai inshallah ta'ala après la prière peut-être, et en même temps je répondrai aux questions qui sont arrivées, si bien sûr on le peut, inshallah. بارك الله.